Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien, bonjour à tous, chers amis auditeurs des arènes de l'écologie sur Aligre FM. L'humanité va encore tenir quelques temps si M. Trump se calme un peu, parce que bon, il nous fait quelques surprises, ce cher monsieur. Mais bon, c'est pas le sujet du jour, quoique, après tout, le sujet du jour, c'est les atteintes diverses et variées contre les libertés. Naturellement, aux arènes de l'écologie, on pensait qu'il n'y avait que les écolos qui étaient cibles des restrictions, des atteintes, mais non, donc en se croisant, en discutant un petit peu, on s'est aperçu qu'il y avait les scientifiques, il y avait les artistes, il y avait les universités, et puis que sais-je encore. Mais bon, c'est pas par là que je vais commencer l'émission, puisque on va avoir nos invités, donc alors par ordre, je ne sais pas si ça va être d'intervention ou pas, mais bon, par ordre de connaissance, alors François Dulac, qui est un habitué des arènes de l'écologie maintenant, qui est chercheur au CEA, c'est bien ça, hein, je ne me trompe pas, spécialiste des pollutions atmosphériques notamment, Bruno Andréotti, qui fait sa première aux arènes de l'écologie. Alors, Bruno, je le connais pas très bien, mais je sais que vous êtes responsable universitaire. Dites-nous tout, Bruno, en quelques mots. Vous êtes physicien,
Et récemment, j'ai été parmi ceux qui se sont occupés d'organiser Stand Up for Science.
D'accord, voilà. Donc d'où effectivement vous aviez été invité par Ben, mais que Ben a été retenu par d'autres obligations et il ne m'a pas tout dit, Ben. Donc je découvre, mais bon, je vous ai un peu googlisé et je suis aperçu que vous étiez quand même très impliqué dans l'institution universitaire, et puis vous êtes là au titre de l'Association pour les libertés académiques, c'est bien ça ?
Alors, j'en fais partie, je suis plus dans les instances responsables, mais c'est un sujet que je connais bien. Oui.
Voilà, bon, on va creuser. Et puis, Elodie Nas, alors, qui est, elle, de la Maison des lanceurs d'alerte, et on se connaît par différentes... ricochet, parce que récemment vous avez lancé une tribune et vous aviez demandé à l'Association des journalistes de l'environnement de la signer, et puis comme je suis encore membre de l'Association des journalistes de l'environnement, je suis au bureau, et donc on est informé, puis on s'est dit on fait partie de ces sujets, des attaques contre les libertés diverses, multiples, on va dire, pas divers et variés, ça fait un peu péjoratif. Mais Ben ne va pas nous faire sa chronique puisqu'il n'est pas là. Mais Théo, qui est néanmoins retenu à Fontainebleau par ses obligations d'étudiant, nous a envoyé sa capsule et sa bonne nouvelle. D'accord. Il nous a envoyé sa capsule qu'on va écouter dans quelques minutes. Mais bon, on va peut-être passer tout de suite. Alors, François, il est venu avec non seulement des informations sur le sujet qu'on va aborder, mais aussi avec une information tout à fait intéressante sur le printemps bruyant. Alors bon, naturellement, ça fait référence au printemps silencieux, livre bien connu. Mais vas-y François, je te laisse ta parole.
Bonsoir, merci pour l'invitation. Moi je suis là aussi au titre de scientifique en rébellion ce soir, hein, puisque les scientifiques se sont engagés il y a quelques années dans des mouvements, en particulier de désobéissance civile. Et donc à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, qui a lieu tous les ans le 7 avril depuis la création de l'Organisation mondiale de la santé par les Nations unies en 1948, on a décidé de faire une marche, d'appeler à la marche samedi du printemps bruyant. Et comme tu le dis, c'est en référence au printemps silencieux de Rachel Carson, publié dans les années 60, qui alertait sur les dangers de ce qu'elle appelait les biocides, donc en fait tous les produits chimiques de synthèse qu'on utilise pour éliminer la plupart des espèces, en dehors de celles qu'on veut voir pousser ou croître. Et donc, le rendez-vous est donné à 14h ce samedi au métro Les Grands Boulevards, sur la ligne 8 qui va vers Créteil. Et bah, il s'agit de rappeler au gouvernement, qui a été encore condamné par la Cour d'appel administrative de Paris en septembre dernier, sur le préjudice lié à l'utilisation des phytosanitaires. Et en particulier, il a été pointé que les autorisations d'utilisation de ces produits faites par l'ANSES, qui est l'agence, l'autorité sanitaire d'évaluation des risques, qui donne les autorisations de mise sur le marché, eh bien, ces autorisations n'utilisent pas toute la connaissance scientifique. En fait, elles reposent sur des études, la plupart du temps fournies par l'industrie, et puis sur un certain nombre de documents statutaires, des normes et des choses comme ça, et pas toujours sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Donc il y a une injonction de l'État de remettre au goût du jour toutes ces autorisations de mise sur le marché. Et donc, on voulait rappeler ça. C'est d'autant plus d'actualité que vous savez que le sénateur Duplomb remet au goût du jour
une
tentative pour qu'on réutilise un certain nombre de produits qui avaient été interdits, pour des raisons sanitaires notamment. Et donc, toujours avec cette idée que c'est finalement le rendement économique qui doit primer, on met en jeu la santé des écosystèmes, des animaux, des plantes et des humains.
Alors, c'est vrai que si, au temps de Rachel Carson, on pouvait encore dire « les scientifiques ne savent pas tout », aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Le DDT a été interdit, mais il y a encore plein de produits. Alors, ça va se passer, vous attendez combien de monde
ça sera la surprise, oui. Comme d'habitude sur ce genre de manifestation. Hein. L'annonce n'a pas été forcément très très diffusée, donc on la passe évidemment sur cette antenne. Il y a quand même une douzaine d'associations qui appellent à cette manif, hein, qui sont co-organisateurs, et puis une cinquantaine d'autres finalement qui se sont joints. Donc on peut penser qu'il y aura quand même un peu de monde.
D'accord. Et alors, répète-nous la date et l'heure.
Donc samedi 4 avril, 14h, au métro Les Grands Boulevards.
Donc c'est à côté du Rex, si je ne me trompe pas.
Alors moi, je ne viens pas souvent au Rex, donc je pourrais confirmer cette information.
Mais bon.
En tout cas, les rapports de l'INSERM de ces dernières années montrent sans ambiguïté les risques sur la santé humaine liés à ces produits.
Oui, on aurait pu aussi parler, on en parlera plus tard, le dernier rapport de l'ANSES sur le cadmium, qui provient, lui, des engrais. On a tout souvent pensé que les engrais, c'était pas méchant. Pas de bol. Même les engrais, ça peut provoquer des maladies plus que graves. Et puis, il y a d'autres... donc, il y a aussi, parmi ces mauvaises nouvelles, où c'est en soi déjà une bonne nouvelle que ce soit révélé, parce que ça fait longtemps que ces pollutions existent à bas bruit, mais on les ignorait. Il y a une étude tout à fait intéressante d'Atmo France, qui donc c'est le réseau des capteurs d'analyse de la pollution de l'air, donc c'est régional, mais bon, tout ça s'est fédéré au sein d'Atmo France, qui vient de sortir une enquête sur les teneurs de l'air en pesticides, donc la pollution, on va dire, non pas urbaine. C'est l'habitude d'Atmo France, et c'était sa vocation de se préoccuper des pollutions urbaines. Mais depuis 4-5 ans, il commence à regarder du côté des pollutions, on va dire, rurales.
Émergentes, on dit.
Oui, on peut dire émergentes aussi. Mais bon, quand on regarde les chiffres, il y a longtemps qu'elles ont émergé. Qu'elles sont bien là. Et donc, effectivement, on commence à s'intéresser à ces pollutions diffuses du monde rural.
Ce qui se passe, c'est que, en fait, la surveillance de la qualité de l'air, elle se fait sur un certain nombre de produits qui ont des obligations de suivi. Et les pesticides, en fait, il n'y a pas d'obligation de suivi en particulier de ces produits-là. Donc, c'est des initiatives, finalement, de recherche, de surveillance un petit peu en marge, qui se font, et la surveillance n'est pas systématique.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on est dans ton domaine. Là.
Voilà, tout à fait. Donc on espère bien que cette mise en évidence va conduire à des prises de décision pour que la surveillance de ces types de produits devienne systématique à la fois dans l'air et dans l'eau.
Alors bon, quand on dit émergent, moi je me souviens avoir traité le sujet il y a déjà 20 ans. Et ce qui nous avait mis la puce à l'oreille avec mon collègue de l'époque, c'était que les observateurs, les scientifiques, s'étaient aperçus que les calvaires bretons, étaient touchés par un mal particulier. Ils en ont fini par en déduire que c'était les polluants qui attaquaient le granit. Donc, et ça, c'était déjà dans les années 90. Donc, il y a 5 ans, Atmo-France avait sorti, alors là, en vrac, avait déversé toutes ces données sur le sujet, et ça avait déjà pu permettre de faire quelques traitements et de s'apercevoir que c'est une réalité. Alors, c'est pas toujours il y a un bruit de fond, mais quelquefois, on pouvait observer des pics absolument incroyables, multipliés par 1000, par rapport au bruit de fond, dans certaines villes de Beauce, notamment. Quelques jours, sûrement, qui devaient suivre les épandages, la teneur grimpait, était multipliée par un bon millier, quoi, je crois.
Mes collègues ont fait des mesures sur des champs, donc en collaboration avec l'INRAE, l'Institut de Recherche Agronomique et Environnementale. Et donc, après un épandage dans un champ, on leur interdit pendant 3 jours d'y mettre les pieds, d'aller voir leur capteur. Et en fait, sur un suivi continu sur plusieurs semaines, qui a été arrêté au bout de 3 semaines d'ailleurs, parce que c'était la durée prévue de la manip, et ben on observait encore des concentrations significatives des produits et de leurs dérivés qui étaient dans l'atmosphère des environs, quoi.
Mais comme tu le disais, effectivement, il n'y a pas d'obligation de suivi. C'était à la discrétion des conseils régionaux. Et selon les régions, on peut s'apercevoir qu'il y a des données où il n'y en a pas. Alors peut-être que la dernière enquête a pu révéler des choses. Mais la question qui se pose, en rapport avec le thème de notre émission, c'est est-ce qu'on pourra encore continuer à dénoncer ce genre de contamination, de mise en danger, mais Élodie, tu nous en parleras. Je crois qu'il y a une lanceur d'alerte en Aquitaine qui subit plus que des pressions à ce sujet pour avoir dénoncé les pollutions ou les contaminations des campagnes et puis de l'air rural, l'air sain. Voilà. On va prolonger le sujet. Alors, c'est vrai que après ces mauvaises nouvelles, on va forcément demander à Théo qui nous en livre une bonne. Alors, qu'est-ce qu'il nous a raconté Théo aujourd'hui ?
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Comme d'habitude, c'est l'heure de notre bonne nouvelle de la semaine, parce que ça fait du bien, ça donne le sourire, et ça, c'est important. Et ce soir, pas besoin d'aller très loin, il nous suffit de traverser la Manche pour nous rendre chez nos amis gallois. En effet, le Pays de Galles a voté au début du mois de mars une loi sur la construction immobilière, et cette loi, elle imposera à partir de mars 2027 que tout nouveau bâtiment construit soit équipé de panneaux solaires, y compris les logements individuels. Alors l'idée, c'est pas de couvrir l'entièreté de la consommation annuelle d'une maison, puisque le seuil minimal est de 720 kWh par an, ce qui représente en moyenne 20% de la consommation annuelle d'un ménage. Ceci étant, ça permet quand même de consommer beaucoup moins d'électricité réseau et d'augmenter la résilience énergétique des bâtiments. Alors quand j'ai découvert ça, je me suis dit waouh, c'est génial, les Gallois ils sont trop forts. Bon, désolé à nos amis gallois, vous n'êtes pas les premiers sur ce coup-là. En réalité, j'ai fait quelques recherches et plusieurs pays ou villes dans le monde ont déjà instauré des mesures similaires. Le premier à l'avoir fait, c'est la Californie en 2020, mais depuis plusieurs lenders allemands se sont aussi engagés dans cette démarche, ou encore la ville de Tokyo depuis 2025. Et c'est une mesure qui est amenée à s'étendre encore. L'Angleterre prévoit de voter une loi similaire dans les prochains mois. L'Union européenne aussi prévoit de généraliser cette mesure à partir de 2029. Et alors, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est une bonne nouvelle tout ça? Eh bien, il faut quand même rappeler qu'à l'échelle mondiale, le secteur du bâtiment représente 35% de nos émissions de CO2. Et sur ces 35%, 27% sont dus à leur usage quotidien, c'est-à-dire la lumière, le chauffage, la clim, etc. L'usage énergétique en général au quotidien. Donc le fait d'avoir des bâtiments plus autonomes sur le plan énergétique et surtout partiellement alimentés au solaire, ça permet de faire drastiquement baisser la consommation de ces bâtiments et donc leurs émissions. D'ailleurs, la Californie enregistre ses premiers résultats puisqu'une étude récente montre que les maisons construites après 2020, donc celles qui ont appliqué cette norme d'installation de panneaux solaires, consomment 30% d'énergie en moins qu'une maison pré-réforme. Alors c'est un petit pas vers une société plus respectueuse de notre planète qui doit encore se généraliser, mais c'est un pas quand même. Voilà, c'était notre bonne nouvelle du soir et sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Théo. Tu as conclu cette première partie de l'émission. On va pouvoir s'octroyer une petite pause musicale avant d'aborder, rentrer dans le vif du sujet, un sujet qui fâche un petit peu quand même, c'est les atteintes des libertés. Alors, en tout genre, on va en parler très vite.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
De soutane à 500 billets. Au lieu de s'éclairer, on se sert du feu de Dieu pour s'incendier. Église, mosquée, synagogue ne doivent pas devenir des casernes. Considérez bien cet appel d'un croyant qui s'est fait lanceur d'alerte. Du Dieu unique à la monnaie unique. Si tu cherches l'histoire des religions, c'est au rayon tragicomique. Entre la Bible du sexe et le diable pour les nuls. Braquage du siècle, chapelet, Talmud, armée du salut. Des tablettes de Moïse au tableau de bourse. Des cadeaux des rois mages au caddie de course. De l'art du discours jusqu'au art de discount. Des salles de prière jusqu'aux salles de shoot. Sexe infantile dans la chapelle Sixtine. Du confessionnal à confession intime. Des minarets aux minerais émiratis. On fait des lance-pierres avec nos crucifix. Ta synagogue c'est le gang de Sinaloa. Les ayatollahs veulent des ayatéas. Pour quelques dollars tu deviens le mollah. Si t'égorges pas bâton le verre la kivla. Tu délayes la main à la jante birmane. Tu pleures ton hymen dans les jupes de l'imam. Tu veux de pauvreté jusqu'au feu de célibat. Des intérêts sales jusqu'à Mère Teresa. In God we trust, comme Donald Trump. À force de descendre, je trouverai du pétrole. Tu fais le pèlerinage en overboard. Tu pars au djihad, c'est pas du airsoft. Au nom d'Hare Krishna, je te vitriole. Tu vends des bouddhas. Sur Bengla Road, j'y ai vu des moines. Sur des Lady Boy, le showroom du diable, c'est le temple des hommes. Étoile. Et croissant, c'est plus que les boutons d'une manette de play. Remplace croisade en croissance, spirituel en spirituel. C'est la foi face à la science, un peu comme l'histoire de Jérusalem. J'suis Yann, Artus Bertrand, j'dis qu'y a rien de rationnel dans ma race humaine. Avec les saintes écritures, on devait gommer les différences. Résultat des courses, on a mis des frontières jusqu'au fond de l'océan. Devenu dur avec les faibles. Faible avec les puissants. Et à chaque fois que ça pète, nos failles sont les épicentes. Canon de fusil en forme de minaret. Tu dessines une croix sur un missile croisière. Étoile de David sur une machette rwandaise. Buste de Bouddha sur pommeau de glaise. On m'a refoulé des fourrailles en canta. Jeune femme est soumise à un ban phallocrate. Que Dieu bénisse la bouffe de mon Instagram. Halal ou haram, ça part au gaspillage. Porte le hijab sur ton profil Tinder. Acquitte la zakat avec bif de dealer. Paye ta bar mitzvah au club le hustler. T'es passé d'enfant de cœur au métier d'escort girl. Tes os du Gange à la piscine du loft. Le viseur ton gun c'est le logo peace and love. Tu crois que le pauvre est un vide proche de pieds jaunes. Que Snoop Doggy Dogg est un prêtre orthodoxe. Tueur de masse, mangeur d'organes. Trader ne pense qu'à paraffer les bas de page. Un centre commercial baptisé Karl Marx. On est dans les mystères insondables de l'âme. La foi, une histoire vraie. Racontée par des menteurs. Les foules ont interféré dans le message de l'auteur. Les forts s'en sont emparés pour toujours mieux dominer. On s'est fait électrocuter par des courants de pensée. Protégeons la foi d'elle-même. N'en faisons pas qu'un tutoriel. Dépoussiérons les manuels. Réunissons frères et sœurs Emmanuel. C'est comme dans le film avec Denzel. Faudrait moins lire au pied de la lettre. Car là où l'homme enflamme le texte, il finira par y brûler des êtres. Mais les livres sont silencieux. Seuls les hommes leur donnent de la voix. Si l'homme est à l'image de Dieu, il est photoshopé par le diable. On n'est plus que des avatars pilotés par nos idoles. Si la religion c'est l'opium du peuple, c'est que le peuple a pris pour religion l'opium.
Eh bien, nous voici revenus dans les arènes de l'écologie sur l'IRFM. pour notre émission sur les atteintes aux libertés. Alors, on l'évoquait tout à l'heure à propos d'une lanceuse d'alerte qui s'était fait, qui a subi une procédure de bâillon pour avoir dénoncé les pollutions atmosphériques. Et alors je me retourne vers Elodinas, qui est de la maison des lanceurs d'alerte. C'est vrai que je ne savais même pas qu'il y avait une maison, que vous les avez tous regroupés. C'est pour les rendre plus facilement visibles et...
Alors la maison des lanceurs d'alerte, elle a été créée en 2018 par... des syndicats de journalistes et des associations de lutte contre la corruption et pour la transparence de la vie publique, mais aussi des associations de défense de l'environnement, avec l'idée de, parce que chacune finalement travaille un peu de son côté sur la question du droit du travail, sur la question de la lutte contre la corruption, et donc elles ont décidé de se mettre, de mettre des ressources en commun pour créer cette association et à la fois proposer un accompagnement individuel à des lanceurs et lanceuses d'alerte, juridique, mais aussi psychologique, financier, médiatique, et aussi de pouvoir porter une parole plus collective, faire avancer la protection des droits, travailler sur la loi de protection des lanceurs d'alerte, et plus récemment, là, sur la question des procédures bâillon.
Alors oui, justement, c'est ça qui nous a amené à nous rencontrer et à se connaître. C'est que vous avez lancé une tribune sur, pour la transcription d'une directive européenne pour, éviter les procédures bâillon.
Exactement. Alors, en avril 2024, une directive européenne de lutte contre les procédures bâillon a été adoptée. Elle a donné 2 ans à la France, enfin, tout État membre, pour inscrire dans son droit national ce qu'on appelle la transposition. Donc, c'est l'intégration du droit européen dans le droit national de chaque État.
Pour que ça puisse s'appliquer, parce qu'on ne peut pas appliquer une directive européenne... aux gens, ça, il faut que ce soit passé par l'Assemblée nationale. Alors si je comprends bien, la France est un peu différente. Alors c'est assez coutumier hein, dans le droit européen, qui a souvent été inspiré par des directives. On a connu moult retards à l'allumage de la France. Ça, c'est pas que sous la Macronie, quoi. Mais pour là, par contre, donc l'échéance, c'est mai 2026,
le et
c'est toujours
mai,
pas. Est-ce que ça a été mis à l'ordre du jour? Parce que c'est vrai que j'ai pas entendu parler de ça, mais bon.
Alors on sait que
peut-être que je suis pas très très assidu.
On sait qu'un projet de loi a été porté par Rachida Dati lorsqu'elle était encore ministre de la Culture, pourrait intégrer les conclusions des états généraux de l'information.
Oh, mais ça, c'était avant.
C'était avant, parce qu'effectivement, Rachida Dati n'est plus ministre de la Culture.
Et pas maire de Paris.
Voilà. Et donc, à ce stade, effectivement, la question de la transposition de cette directive européenne n'a pas été mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Mais normalement, c'est pas le ministre, ça peut être des parlementaires.
Tout à fait.
Alors qu'est-ce qu'ils font, nos parlementaires?
C'est exactement pour ça que nous avons, avec 146 autres organisations, rédigé cette tribune pour pouvoir interpeller le gouvernement et les parlementaires sur non seulement cette deadline de la Commission européenne, mais aussi pour rappeler qu'il y a urgence pour lutter contre les procédures bâillon. Donc peut-être pour... éclairer un peu.
Alors, est-ce que ces différents groupes parlementaires vous ont fait des réponses et vous ont dit, nous, on va s'en charger, on n'y avait pas pensé, désolé madame, mais on va le faire, ou au contraire, c'est le mutisme total?
Alors, nous venons de publier cette tribune, donc nous attendons effectivement des réponses et nous allons les contacter plus individuellement pour pouvoir pousser la mise en place de cette d'une loi, mais aussi de peut-être d'une transposition un peu plus ambitieuse que la directive.
Il faudrait déjà qu'il y ait quelque chose, oui.
Exactement. Comme je le disais, au-delà de cette deadline de la directive européenne, il y a urgence à agir puisqu'on constate ces dernières années une augmentation des procédures bâillon à l'égard des journalistes, à l'égard des ONG, à l'égard des lanceurs d'alerte, à l'égard des
scientifiques. Oui, donc ça pourrait être une mesure de précaution avec, on ne sait jamais ce qui pourrait se passer en 2027, mais peut-être que nos auditeurs mesurent mal ce que c'est qu'une procédure bâillon. Alors bon, on devine un petit peu, mais concrètement...
Alors une procédure bâillon, c'est une procédure judiciaire abusive. Donc, si on prend un exemple, voilà, on est un journaliste, on fait son travail, on va enquêter sur une personnalité publique, une personnalité politique, une entreprise, révéler un certain nombre de faits qui sont importants pour les citoyens et citoyennes, voilà, qui doivent être informés de ces faits. Cette personnalité publique, cette entreprise, va décider de poursuivre en justice la journaliste, le média ou l'ONG.
J'imagine
qui
pour diffamation ou ce type de...
Pour diffamation ou pour d'autres choses. Alors, ce qui est important de dire, c'est que évidemment qu'il est important que ces personnes physiques ou morales aient la possibilité d'aller en justice si elles sont attaquées en diffamation, si elles considèrent que ça porte atteinte à leur réputation, etc. Toutes les procédures de diffamation, les poursuites en diffamation ne sont pas des procédures bâillon. La procédure bâillon, c'est vraiment l'idée d'ensevelir une personne ou un média sous des poursuites judiciaires sans chercher à gagner. C'est ça qui est important. C'est que l'objectif n'est pas de gagner devant la justice.
Quoi.
C'est d'étouffer. Ce sont des procédures qui sont coûteuses, effectivement. Prendre un avocat. Ce sont des procédures aussi qui, psychologiquement, peuvent être très impactantes, hein, puisque ça prend du temps. C'est jugé parfois sur plusieurs années.
Oui, c'est une forme d'intimidation. Quoi.
C'est de l'intimidation. Ça cherche à faire taire, à bâillonner, comme son nom l'indique. Et c'est absolument délétère pour la démocratie.
Et donc, ça se multiplie. Un petit peu ce...
C'est ce qu'on constate depuis quelques années. Il y a une amplification des procédures bâillon qui est certainement liée aussi à une forme d'impunité, effectivement, puisque nous n'avons pas de possibilité juridique d'empêcher.
Alors que nous dit cette directive, en quoi elle pourrait limiter et freiner l'abus
Alors la directive, elle porte différentes propositions qui sont un peu technique. Ça va du renversement de la charge de la preuve aussi. Ce serait à la personne qui accuse d'expliciter pourquoi cet article ou ce rapport d'ONG ou ce témoignage dans cette alerte d'un lanceur d'alerte contrevient à sa réputation. Il y a aussi des frais des provisions de justice aussi qui peuvent être données directement aux personnes qui sont
Et sur votre site, on peut être informé, on peut trouver toutes ces informations sur les procédures bâillon en cours et les gens qui aujourd'hui... les lanceurs d'alerte qui se font brimer d'une manière ou d'une autre, quoi.
Alors, effectivement, nous, on travaille exclusivement sur la question de la protection des lanceurs d'alerte. Donc, sur le site de la Maison des lanceurs d'alerte, vous retrouverez un certain nombre de portraits de lanceurs d'alerte publics ou anonymes. Cette tribune, on l'a notamment travaillé avec l'association Sherpa et avec Reporters sans frontières. Sherpa a publié un rapport aussi un peu plus poussé, technique, sur les procédures bâillon que je vous invite aussi à consulter.
Et l'écologie est un sujet qui est, fréquemment attaqué. Vous n'êtes pas spécialisé sur les alertes écologiques, mais ça représente quoi l'écologie, puisqu'on va parler boutique un petit peu quand même.
Bien sûr. Alors moi, je dois vous dire aussi qu'avant d'être déléguée générale de la Maison des lanceurs d'alerte, j'ai notamment coordonné un collectif qui est un étage en dessous de vous, qui s'appelle Action Justice Climat, qui était anciennement Alternative à Paris, et avec lequel j'ai coordonné un certain nombre d'actions de désobéissance civile et des grandes marches pour le climat. Donc je suis assez sensible au sujet. Et effectivement, ce qu'on constate, nous, côté Maison des lanceurs d'alerte, c'est que ce volet des atteintes à l'environnement représente un nombre... assez important des alertes qu'on reçoit. Et concernant les procédures bâillon, on n'a pas forcément de chiffres sur les thématiques. Mais c'est vrai que le recensement qu'on est en train de réaliser montre qu'il y a un certain nombre, notamment de médias qui vivent ces procédures bâillons. Et puis il y a le cas surtout de Greenpeace, Greenpeace France notamment, qui a publié un rapport informé et dénoncé du greenwashing de la part de l'entreprise Total Energy qui les a attaqués et Greenpeace France a gagné sur cette affaire-là. Greenpeace International, aux États-Unis, je pense que vous le savez, est oui. aussi victime d'une attaque en justice très très grave. Et le Greenpeace, il y a beaucoup d'entités dans Greenpeace, Greenpeace International, qui est basé aux Pays-Bas, a décidé justement d'utiliser la directive procédure Bâillon pour pouvoir attaquer l'entreprise.
D'accord.
Voilà, donc c'est un droit quand même assez nouveau. C'est sûr que c'est encore peu palpable et certainement ce sera un outil juridique qu'on pourra utiliser plutôt a posteriori qu'a priori. Mais en tout cas, il est clair que dans le contexte politique actuel...
Non, mais ça me paraît important aussi que dans cette année qui s'ouvre, puisque les municipales devaient clore un chapitre pour en ouvrir un autre, et tout le monde sait lequel dont il s'agit, les présidentielles, de pouvoir interpeller sur des questions très claires. C'est vrai qu'on attend avec impatience les réponses de tes groupes parlementaires. Mais bon, effectivement... Là, on parlait de la désobéissance civile, mais je vais me retourner vers Bruno Andréotti, qui est prof. Donc, un prof, ça ne désobéit pas. C'est plutôt ses élèves qui vont désobéir. Mais bon, le prof est là pour apporter un savoir. Et vous, pourtant, vous parlez d'attaques sur les libertés académiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les libertés académiques ?
Aligre FM 93.1.
Alors déjà, le concept, il est au singulier. C'est comme la liberté de la presse, on dit la liberté académique. Et ça désigne la condition de possibilité de notre métier, que ce soit universitaire, donc avec une composante d'enseignement et de recherche, ou celle de la recherche. Et pour quelle raison ? Parce que la manière qu'ont les sciences d'établir des savoirs et spécifiques. Elles passent par des procédures spécifiques, elles passent par des manières de faire preuve. C'est pas la même, par exemple, que celle de la justice. C'est pas la même que celle des journalistes. Et ça passe par des normes et des procédures qui exigent d'être à l'abri et de tenir ces procédures en interne, de les discuter entre savants du même champ, de se soumettre à la critique illimitée dans son champ. Donc, de ce fait-là, c'est pas du tout exact qu'on est tenu à une quelconque obéissance, c'est l'exact inverse, on est tenu par l'éthique académique, c'est-à-dire, quand je prends la parole ici, je peux pas me permettre de dire des conneries, c'est-à-dire, je suis tenu par mon métier de... respecter ce qui a été élaboré dans cette méthode particulière.
Toujours parler, comment dire, au nom de la collectivité scientifique. Alors, dans ce domaine, des consensus ou des...
Pas exactement. Non. Le concept de consensus, c'est un concept scientiste. C'est pas des consensus. C'est que...
Alors, on parle aussi de paradigme.
Dans la méthode, par exemple, si on n'est pas d'accord, mais on va s'efforcer de porter une critique rationnel sur l'état de l'art, de rendre compte de ce que d'autres ont fait. Donc c'est la méthode particulière. Donc la condition sous laquelle on peut faire ce métier, aussi bien enseigner que faire de la recherche, c'est ça la liberté académique. Donc dans l'idéal, c'est un idéal d'autonomie vis-à-vis des pouvoirs, c'est-à-dire les règles dans l'université avec un grand U, le concept d'université, pas les établissements qui ont le même nom, exige d'être à l'abri des pouvoirs religieux, historiquement, politiques et de plus en plus économiques.
Oui, donc c'est la liberté académique au sens où Galilée, voilà. On a été un peu...
Alors, elle a jamais eu des conditions, il n'y a jamais eu d'âge d'or de ce point de vue, parce que les sciences se sont toujours développées sous l'aile du prince. Et il y a une aspiration, une tension toujours avec les pouvoirs de sorte à gagner. Donc il y a deux concepts dedans et c'est important par rapport à la discussion d'avant. Il y a un bout qu'on appelle la liberté, une liberté négative, un aspect négatif de la liberté. Ça signifie qu'on est protégé des interventions extérieures. Par exemple, c'est le cas pour les lanceurs d'alerte. Prenons l'exemple de l'IVG, le droit à l'IVG. Bon, en tant que droit négatif, ça signifie que si vous avez les moyens de l'avortement, on ne peut pas vous punir juridiquement d'avoir procédé à un IVG. La liberté positive, ça signifie que vous avez les moyens effectifs d'exercer la liberté. Pour l'IVG, ça veut dire que le planning familial existe, il y a dans toutes les régions du monde des cliniques,
des hôpitaux,
les praticiens ne peuvent pas refuser. Donc on voit bien qu'il y a ces deux dimensions, elles sont très différentes. Il y a une protection juridique vis-à-vis de l'extérieur, mais pour nous, ce qui est très important, c'est que de manière effective, on puisse rechercher sur les sujets qu'on veut.
C'est valable autant pour les sciences humaines que pour les sciences physiques.
Absolument, chaque discipline a ses manières de travailler. Pour autant, les sciences humaines sont sous des attaques depuis fort longtemps dans leurs principes même. Ils sont attaqués dans la presse réactionnaire au quotidien. Encore la semaine dernière, trois historiens travaillant sur le fascisme ont été attaqués, escalités, parce qu'ils travaillent sur le fascisme dans le Figaro Vox. Bon. Donc, les collègues des sciences humaines travaillent, ils ont besoin de leur salaire, ils ont besoin de protection, comme ça. Mais en sciences de la nature, ce qui est spécifique, c'est que les sciences expérimentales coûtent cher. Et donc, il y a une dimension, une tension sur la manine, sur les crédits qui donnent des prises un peu différentes et des attaques un peu différentes. Dès lors que les budgets sont attaqués, les sciences de la nature...
Donc on ne va pas forcément les attaquer de front, ces libertés, mais par le biais des budgets, en restreignant, en réduisant en mettant l'université au régime sec, mais ça on pourra en parler tout à l'heure, il y a effectivement des craintes à avoir dans le domaine.
Alors on ne peut plus dire exactement comme ça, c'est-à-dire pendant la vingtaine d'années qui vient de s'écouler, en effet, on a été sous un régime managérial qui passe par un certain nombre de prises qui viennent par les appels à projets, qui viennent par les recettes du management et qui sont en effet jamais des attaques explicites mais plutôt des attaques sous-jacentes. Depuis un an, Trump 2 amène un changement de nature, je pense, radical de la manière.
Oui, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est d'une brutalité incroyable. On l'a déjà un peu évoqué. On avait plutôt l'impression que la France était une terre d'asile pour les scientifiques américains, du moins c'est ce qui était dit dans les discours. Quand on parle aussi avec des universitaires bien français, ils nous disent oui, regarde nos budgets, on est en train de tout rogner. Je crois qu'il y a une association qui s'appelle Azure Agora, scientifique universitaire recherche, mais je crois que tu as participé à un colloque aussi chez eux qui dénonçait récemment une baisse structurelle de 6% des budgets des universités. Donc effectivement, 6% de budget en moins, on commence à comprendre pourquoi aujourd'hui dans les facs, on est amené à se rendre dans des colloques et en discuter avec des profs. Ils nous disaient, on est au mois de février, on n'a plus de quoi payer les TD, plus de quoi payer les chargés de cours. Donc c'est quand même assez impressionnant ça. Et est-ce que c'est ça qui fait partie aujourd'hui de la préoccupation des scientifiques et de ton association ALIA
Donc il faut hiérarchiser les choses. Les attaques de...
Non, ça c'est le prof de physique qui parle. Attention, ça rigole pas.
En effet, on est dans une attaque budgétaire qui est sans précédent récent.
Mais c'est un bas bruit, on n'en parle jamais.
Alors, on n'en parle jamais parce que les budgets ont été votés très tard dans les conditions qu'on sait.
Rocambolesque qu'on connaît, oui.
Donc là, l'intégralité des universités ouvre en déficit. Ça fait maintenant 2 ans que l'argent qui est voté par la représentation nationale ne couvre plus les salaires. Le CNRS, pour la première fois de son existence, le CNRS est né de la résistance, il est né du Conseil national de résistance. Et pour la première fois, il ouvre en déficit, mais les dotations budgétaires, c'était il y a 2-3 jours. Donc là, c'est pleinement d'actualité. Ça n'a pas à voir avec le trumpisme. Ça a à voir avec le fait que la science et l'université, les espoirs des réformateurs il y a 20 ans, a été que ça allait, que leur manière de faire allait tirer l'économie, qu'en conséquence, il allait y avoir de la croissance, du ruissellement, et qu'on pourrait réalimenter. On voit la situation économique qui est résultée de ces choix, de la politique de l'offre. On voit une grande stagnation, peut-être pour le bien écologique, cette stagnation, mais enfin, en tout cas, on la voit. Et par conséquent, on est dans un moment de crise du modèle précédent. Et en face, et je pense que c'est lié au fait qu'il y a cette crise du modèle néolibéral qui a prévalu pendant les dernières décennies. Le trumpisme, pour l'université depuis le tournant des années 2000, mais économiquement un petit peu plus, le trumpisme arrive pour, d'une certaine manière, tenter de répondre à cette crise majeure. Et là, on a des offensives qui sont sans commune mesure avec le reste, dans lequel tout ce qui a trait aux zones de connexion entre les sciences et la société sont attaquées. Évidemment, les femmes sont attaquées, les minorités raciales sont attaquées, mais toutes les agences de régulation agro-industrielles, environnementales, les agences de santé, les agences climatiques sont attaquées frontalement, les universités sont attaquées frontalement. Et donc là, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une attaque pour déstabiliser la démocratie libérale. C'est une approximation de démocratie, elle est critiquable, mais enfin, elle est quelque chose associé aux libertés. Et cette méthode trumpiste d'attaque frontale, on commence à en voir
une version française
ici depuis. Pour les attaques contre les sciences humaines, la chimère islamo-gauchiste, ça date de Blanquer, Vidal, donc ça a déjà quelques années, mais jusqu'ici, les sciences de la nature se sentaient quand même
un peu protégées.
Relativement protégées.
Et la nouveauté
du trumpisme, c'est quand même de voir les collègues qui s'intéressent au climat. Alors, ont été extrêmement choqués de voir qu'ils cibles frontales.
Ça, c'est aux USA, mais en France...
Alors, en France, on en voit des germes. Donc, des germes, ce n'est pas une attaque frontale, c'est des germes. Mais on voit bien que les agences sont attaquées, l'ADEME est attaquée, l'Office français de la biodiversité.
Mais vous, les universitaires, dans vos labos, dans vos amphis, est-ce que vous souffrez de... comment ça se concrétise, ces attaques sur la liberté académique?
Donc, comme j'ai dit, y a les attaques de fond qui passent par le budget, qui passent par le contrôle des sujets de recherche. Et ça, c'était l'ancien régime pré-trumpiste. Le régime trumpiste, pour l'instant, nous en sommes à des germes, mais on voit un colloque au Collège de France, une institution royale, certes, mais quand même une institution prestigieuse qui est annulée. On voit... Les zones à régime restrictif, les ZRR, sont des zones qui s'étendent et qui passent sous contrôle qui n'est pas scientifique, en particulier pour recruter des doctorants, recruter des post-doctorants, inviter des collègues. Il y a une sorte de contrôle militaire, un contrôle de sécurité, et ces zones-là s'étendent partout. Donc voilà une manifestation concrète. Et puis autour de la recherche proprement dite, il y a les agences, ces agences, elles ont été critiquées fortement côté écologiste. Oui. D'ailleurs, tu as critiqué tout à l'heure par l'autre côté, elles se mettent à être attaquées frontalement. Et c'est cette zone frontalière dont on voit très bien les germes trumpistes. Donc, j'ai Bon, l'OFB, c'est oui. évident, l'ADEME, l'ANSES est attaquée par l'autre oui. flanc, elle est sous les
mais bon, c'est les agences
sous les attaques conjointes ouais. et côté
mais toi dans ta position de prof de l'ordre de physique, dans des domaines un peu particuliers, tu nous disais que tu faisais de la physique des nuages, ouais. J'imagine qu'effectivement, certains... bien pensant, vont nous dire mais ça sert à quoi de faire c'est quoi ce poète en physique est-ce que tu peux subir des attaques en disant c'est pas sérieux, c'est encore un... on voit très bien certains commentateurs politiques pouvoir attaquer ce genre de choses, la physique des nuages, mais franchement monsieur...
Donc bon, la physique des nuages, c'est extrêmement sérieux. C'est la boîte du réchauffement climatique.
Oui, voilà.
Non,
mais
grosse
bon.
Source d'incertitude sur lequel on a les effets.
Oui, mais,
des
aérosols. Mais là, tu es dans les arènes de l'écologie. Nos auditeurs savent que c'est pas une que c'est pas une aberration.
Pour l'instant, on est avec ces germes épars, surtout sur CNews ou dans la presse réactionnaire. On est encore dans l'ancien régime, c'est-à-dire ce régime de management qui prévaut depuis une vingtaine d'années, qui s'attaque par les budgets, par les thèmes de recherche. Donc évidemment, on sent qu'on est sur un point de bascule. Et quand on est sur le point de bascule, presque par définition, on ne peut pas documenter oui. exactement les choses. On voit
mais tu sens la marée montée. Quoi,
on sent la marée montée. Et on...
Mais alors justement, ça va nous permettre de faire une transition avec
non, mais
François.
C'était pour dire aussi qu'on voit quand même se développer...
François
dans...
Dulac, alors là, qui parle au nom de scientifiques en rébellion.
Voilà, je suis aussi membre d'ALIA, accessoirement, mais on voit passer sur les discussions d'ALIA, en fait, des tas d'alertes sur le fait que les organismes et les universités en particulier établissent des chartes pour limiter, finalement, la liberté d'expression, la liberté académique de leur personnel. Et c'est particulièrement imposé à tous les gens à qui on fait signer des contrats à durée déterminée. Les attachés d'enseignement, par exemple. Moi, j'ai vu passer des extraits de chartes d'un ATER qui, si on les appliquait à la lettre, il pourrait même pas enseigner. Donc ça veut dire que les organismes commencent à chercher à imposer des régulations qui sont très en retrait de la liberté académique et qui leur permettent finalement de reprocher à peu près n'importe quoi, n'importe quelle prise de parole de leur personnel. Et donc ça, je trouve que depuis quelques années, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer et qui est dans cet élan du trumpisme où on veut absolument museler la parole des personnels scientifiques.
D'accord. Et écoute, on va se faire une petite pause musicale et puis on va relancer le sujet tout à l'heure sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment avancer et quelles peuvent être les solutions à ces situations. Eh bien Armand, puis tu n'oublieras pas de nous préciser qui était ce chanteur de la première musique.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
De mon samedi, donc tant qu'à faire, j'ai de l'amour à donner, j'ai du temps à perdre. Donc
j'aimerais qu'on reste
dans les alentours, loin de la lumière du jour, assis dans le cinéma,
le moteur qui démarre,
ébloui plein les phares.
Je rédige le scénar
dans les alentours,
loin de la lumière du jour,
pour un peu de douceur,
juste un peu de douceur. Mets du sucre dans mes popcorn. Pendant que l'ice cream fond, j'aime la vanille pour bonbon.
bon, pourvu que le film soit long, long, long.
Et du sucre dans mes popcorn, pendant que l'ice cream fond, fond, fond. J'aime la vanille pour bonbon, pourvu que le film soit long, long, long.
J'aimerais qu'on reste là.
Loin
de ces sièges rouges.
Loin de ces sièges, j'aimerais qu'on reste.
Chérie, je veux pas qu'on bouge.
Chérie, je veux pas qu'on
bouge. Loin de ces sièges rouges.
Eh bien, nous voici de retour dans les arènes de l'écologie sur l'YFM pour aborder ce sujet des attaques un peu sournoises et en sourdine contre les libertés diverses et variées. Parce que là, pendant la pause musicale, Élodie nous dit « Oui, mais il y a aussi les associations qui sont attaquées. Il y a plein de choses. » Effectivement, il est peut-être grand temps de faire la liste, cet inventaire des multiples attaques. Et tu disais qu'il y avait des amendements présents régulièrement par des députés qui sont, jusqu'à maintenant se sont fait retoquer, mais pour notamment s'en prendre à la défiscalisation des dons au monde associatif.
C'est vrai que les finances des associations qui sont très précaires, il faut quand même le rappeler, reposent beaucoup sur les subventions publiques, donc beaucoup ont été coupées et certaines c'est aussi finalement dans la lignée du Trumpisme dont on parlait juste avant, et les coupes notamment de USAID qui permettaient de financer notamment des actions humanitaires dans le monde entier, a aussi un peu donné finalement du champ à d'autres acteurs sur la scène internationale pour se dire bon si les États-Unis se désengagent, on va peut-être aussi se désengager, donc ce qui a mis à mal beaucoup de d'ONG et d'associations dans le monde. Et puis en France, il y a des coupes aussi sur des économies qu'on fait sur des subventions publiques. Et puis effectivement, ça fait quelques années que à chaque projet de loi de finances, à chaque budget national, il y a des amendements qui sont déposés par des députés RN sur la question de la remise en cause de la défiscalisation des dons pour les associations d'intérêt général, conditionnée au respect de une certaine vision. On a déjà eu le contrat d'engagement républicain qui décide si certaines associations rentrent dans une certaine vision de la République ou non. Et la question des dons, pour l'instant, elle n'est jamais passée, mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'associations qui sont financées par les dons des particuliers, beaucoup d'associations qui sont indépendantes et qui arrivent à ne vivre que par les dons, la fin de cette... Donc, la remise en cause de la défiscalisation,
donc
vraiment...
Tu nous dis qu'après les scientifiques, qu'après les écologistes, ça pourrait être aussi globalement les associations qui pourraient être la cible du... non plus seulement un serrage de vis, d'attaque caractérisée, quoi.
Tout à fait, et je voudrais aussi revenir sur ce qui se passe aux États-Unis, puisque on a des collègues d'autres organisations qui travaillent sur la protection des lanceurs d'alerte aux États-Unis. Il faut savoir que la notion de lanceur d'alerte, elle vient d'abord des États-Unis, qui a une grande tradition de whistleblower aux États-Unis, et que Trump a aussi démantelé toutes les agences qui permettaient notamment au niveau fédéral, de pouvoir recevoir et traiter les alertes, et donc de remédier sur le fond.
Alors, Je voulais que cette émission nous dresse un peu le panorama de toutes les attaques. Je crois qu'on aura tenté, mais je ne suis pas sûr qu'on ait réussi à couvrir l'ensemble de l'éventail. Mais surtout, la question qui va se poser, c'est un, comment faire apparaître réellement toute cette liste d'attaques, et puis comment s'organiser pour s'y préparer, parce qu'effectivement, y a un moment... va falloir se préparer au pire, on ne sait jamais. Donc, est-ce que dans vos associations, il y a comme aujourd'hui une mobilisation, quelque chose qui puisse permettre de faire de voir la réalité? Est-ce que il y a une manif? Qu'est-ce qu'il y a dans les cartables pour s'organiser?
La résistance, elle peut passer par le refus des amendes et des accusations. Par exemple, quand il y a des actions de désobéissance civile, il y a très souvent, et qu'il n'y a pas de dégradation, il y a très souvent des amendes pour manif illégale ou pour des prétextes tout à fait divers et qui relèvent des procédures bâillons. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que finalement, les militants qui sont assez courageux pour s'engager dans ces actions-là, ils refusent de payer les amendes, et ils vont en justice. Et jusqu'à maintenant, en tout cas en France, la justice a plutôt été bienveillante, en prenant en compte finalement le fait que ces actions avaient évidemment des inconvénients, mais qu'ils étaient très très loin d'avoir les mêmes retombées que les choses pour lesquelles ils faisaient des dénonciations. Par exemple, les pesticides, les terminaux méthaniers, les actions contre le climat, contre la biodiversité.
Mais François, là, je vois la pendule qui alors je ne sais pas si elle nous fait une procédure Bayon, mais elle tourne irrémédiablement.
En tout cas, c'est une façon d'aller en justice et puis d'obtenir gain de cause.
Donc il faut,
c'est
faut
une façon très visible de faire part.
Voilà,
de ces
il faudrait populariser un petit peu tous ces procès qui ont lieu, qui passent à bas bruit. Alors moi, je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission. Je crois que ça pourrait être le 27 mai, où là, on fasse un inventaire plus précis, et puis peut-être imaginer des moyens d'action, parce qu'on ne peut pas rester comme ça gentiment en attendant que le 10 mai 2027 arrive. Quoi,
Peut-être comme moyen d'action, enfin, moi j'en vois deux, c'est la question de l'information, donc ça a été dit, il faut qu'on puisse avoir en tête, prendre connaissance des différents types d'attaques, surtout que comme vous l'avez dit, c'est un peu sournois, c'est un peu diffus, et on a besoin d'avoir une vision un peu plus globale sur ce qui se passe.
Voilà.
Et la deuxième chose...
Élodie, donne-nous un rendez-vous parce qu'il ne reste plus qu'une minute.
Okay. Et la deuxième chose, c'est la coalition, en fait. Il faut à tout prix qu'on puisse travailler ensemble,
voilà, c'est
toutes
ça.
Les voix de la société civile.
Eh ben, on invite tout le monde pour une coalition le 27 mai dans ce studio magnifique d'Aligre FM. Alors, je remercie Armand Uri pour sa magnifique programmation musicale. Alors, tu nous diras la semaine prochaine qui c'est que tu avais mis, mais en tout cas merci beaucoup à Bruno Andréotti, à Elodie Nas et puis à François Dulac qui prend ses habitudes, et j'en suis ravi dans les arènes de l'écologie. Écoutez, la semaine prochaine on va ouvrir un nouveau cycle d'émissions, ce sera la voix de la biodiversité, ce sera des rencontres pendant un mois, on va faire des rencontres entre scientifiques plutôt des sciences naturelles et des artistes pour voir comment on pourrait réensemencer notre imaginaire pour transformer les représentations culturelles. Eh bien, je vous souhaite une excellente semaine et puis tenons bien, on n'est pas perdu.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.